de pluie, alors qu'il s'agit bien de la désobéissance d'Akab et de sa femme, Jézabel, font cette condamnation. Pendant 3 ans et demi, Élie va aller se cacher, va vivre des événements un peu particuliers et des miracles aussi, cette veuve de Sarepta, je ne vais pas revenir là-dessus. Puis, il va se présenter à nouveau à Akab, et là, il va montrer que c'est bien Dieu qui pourvoit et qui donne cette eau. À ce moment-là, il va demander aux prophètes de Baal et des Astartés aussi, 850 prophètes, ça fait beaucoup de monde, hein, 850, hein, n'est-ce pas? Ça fait un peu plus que nous sommes là, peut-être 8 à 10 fois ce que nous sommes. Eh bien, il va demander à ces prophètes de prouver que leur Dieu répond. Ils vont faire un autel, ils vont faire des imprécations, se faire des scarifications, vont invoquer Baal, ils vont faire tout un tas de choses comme cela pour finalement... rien, puisque Baal n'est qu'une statue, Baal n'est que quelque chose que les gens ont inventé. Élie, le serviteur du Dieu l'Éternel, du Dieu créateur, du Dieu vivant, va lui remonter cet autel en l'honneur de l'Éternel. Et vous savez, hein, on l'a vu la dernière fois, comme le montre cette image, ce dessin qui est là sur la présentation, que l'on ne voit pas très très bien, mais voilà, on voit que l'Holocauste a bien été consumé par Dieu. Dieu va envoyer son feu qui va brûler non seulement la chair, mais aussi tout l'autel, l'eau qui avait été versée dessus, etc. Tout est consumé. Dieu est bien vivant. L'Éternel est bien le Dieu qui est celui qui donne, le Dieu qui mérite d'être adoré, le seul qui a autorité sur toute chose, dans les cieux et sur la terre. C'est la conclusion de cet épisode. Et finalement, c'est très normal, même si ça nous semble plutôt bizarre, que Élie va aller prendre ces différents faux prophètes qui vont tromper le peuple de Dieu, le détourner du Dieu vivant, et qu'il va aller les mettre à mort. Un épisode quand même assez rare de la vie des prophètes et des gens de la Bible, où Dieu va se manifester d'une façon tout à fait miraculeuse et s'opposer aux autres dieux. Peut-être que vous en avez un autre en tête. Est-ce qu'il y a dans vos mémoires un autre endroit où Dieu va dire « c'est pas eux qui sont Dieu, c'est moi » ? Ah, classe du dimanche. Tac, 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 tac. Ah, vous vous rappelez pas ? Quand ils sont sortis d'Égypte, eh oui, le Nil, c'est un des dieux de l'Égypte, par exemple. Le soleil qui a été obscurci, etc. Dieu va dire, c'est pas eux, c'est moi qui décide de ce qui doit être fait, et c'est moi qui vous dis maintenant de laisser partir mon peuple. Et rappelez-vous, ce fameux bois qui a été transformé en serpent, on en a parlé dernièrement, n'est-ce pas ? Yvon l'a fait. Et c'est ce serpent-là qui va finalement manger les serpents des autres prêtres qui sont là pour dire « Non, non, nous aussi, on sait faire de la magie. » Et le serpent là de Moïse va manger ces autres serpents. Il y a d'autres événements similaires, mais il faut quand même remarquer qu'ils sont assez rares, n'est-ce pas ? J'aimerais bien que chaque jour, je puisse dire « Bon, Seigneur, fais ça, paf !» N'est-ce pas ? La réponse à « Tac !» On a besoin de ça, mais c'est assez rare. Pourquoi ? Parce que Dieu nous invite à vivre, oui, c'est-à-dire en confiance en lui, que ce dont nous avons besoin, que ce dont nous avons le plus besoin, eh bien, il nous le donne. Dieu ne nous rend pas paresseux, il nous invite à évidemment travailler, mais il veut que nous nous tournions vers lui pour les besoins que nous avons. Alors Élie va vivre ce moment miraculeux, incroyable. Ce moment étonnant où, tac, le feu est tombé du ciel et il va laisser tout le monde abasourdi, sauf Élie. Élie qui, lui, connaît l'Éternel. C'est un moment qui est très, très fort, n'est-ce pas ? Suivi, comme je l'ai dit, de cette mise à mort des 850 faux prophètes. Et à ce moment-là, la pluie va revenir. On n'a pas eu le temps de le lire, mais la pluie va revenir suite à cela. Le peuple va dire, oui, c'est l'Éternel qui est bien Dieu. Ah, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui se passe ? on les a invités à faire un choix, le choix de reconstruire cet autel. J'en ai parlé la dernière fois, l'autel du sacrifice pour la vie et l'autel de l'adoration. Et ce choix-là, est-ce qu'ils l'ont fait ? Malheureusement, non. Puisque nous observons que quelques temps après, eh bien, Élie va à l'endroit où Akab et Jézabel, dans leur demeure d'été, savons que c'est les vacances en ce moment, hein, les présidents vont dans leur demeure d'été, Akab et Jézabel aussi étaient dans leur demeure d'été, donc ils vont là, finalement, Akab va venir dire à Jézabel ce qui s'est passé. Et Jézabel va ordonner, avec une imprécation, que Élie soit tué sous les 24 heures. Alors, on va prendre la parole de Dieu. Je vous invite à la prendre et à aller chercher la page dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Comme ça, on aura les détails du récit. Et après, on prendra le temps d'expliquer ce que ça veut dire pour vous et moi. 1 Roi 19, verset 1. Akab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux fassent ceci, qu'ils y ajoutent cela, si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Bethsabée, qui appartient à Juda, donc dans l'autre partie, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, Élie alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Ça suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha, s'endormit sous un genêt, et soudain, un messager ou un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb ou Sion. Là-bas, il entra dans la grotte et il y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait « Mais que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai montré tout mon zèle, toute ma passion pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et moi, je suis resté seul. » Et ils le cherchent à me prendre la vie. Il reprit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. » Or, le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue, ou le bruit du silence. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Soudain, une voix lui dit « Mais que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai montré tout mon zèle, toute ma passion pour le Seigneur, le Dieu des armées, car tes Israélites, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et moi je suis resté seul, et ils cherchent à me prendre la vie. » Le Seigneur lui dit, « Va, Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël pour qu'il soit roi sur Aram. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi sur Israël. Et tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour qu'il soit prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant le Baal, toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Nous sommes là, dans un moment un peu particulier, n'est-ce pas, où on peut penser que le fait qu'il y ait eu cette manifestation spectaculaire de la part de Dieu aurait changé l'attitude, en tout cas poussé le peuple à faire un choix envers l'Éternel, à abandonner les Baals et les Astartés, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Celle qui domine, c'est Jézabel, cette reine étrangère. Et Jézabel n'est pas prête, même si elle a compris que c'est l'Éternel qui est supérieur à Baal, elle n'est pas prête à laisser les Baals et les Astartés, elle n'est pas prête à abandonner son pouvoir par cette religion. Elle n'est pas prête à laisser la place à Dieu du tout. Nous voyons Akab, qui lui est complètement passif, n'est-ce pas ? Il a vu le feu. Pour lui, il a vu ce feu descendre. Il a vu cette réponse de Dieu, mais il n'a pas l'intention de remettre sa vie entre les mains de Dieu et à laisser Dieu à sa place. Au contraire, lui, il va se soumettre à cette femme-là qui va décider de tuer Élie. Élie nous embarrasse, donc on va le tuer. Ça n'intéresse pas de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Elle veut le tuer pour sauver son pouvoir, son autorité de cette femme qui domine tout Israël. Elle va jurer dans les 24 heures de tuer cet homme. Alors, on se rend compte que tout d'un coup, il n'y a plus personne. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Jusqu'avant, il y avait là tout un peuple qui venait de crier l'Éternel et Dieu, c'est bien lui qui est Dieu. Et là, Élie, et encore une fois, tout seul, avec son serviteur, mais tout seul. Et c'est très étonnant parce que suite à ce moment d'euphorie, n'est-ce pas, où Dieu manifeste sa puissance par un éclat assez prodigieux, eh bien, se trouve un moment où ça n'a strictement rien donné. Le peuple ne se tourne pas vers son Seigneur. Rappelez-vous cette parole du Christ, n'est-ce pas ? Même si un mort revenait, il ne lui obéirait pas, il ne donnerait pas leur confiance en Dieu, en lui. Et nous avons donc Élie qui se retrouve tout seul, et c'est le propre, voilà, trois points dans ce message de ce matin. Dieu est-il présent dans ma vie ? On l'abordera surtout dans la conclusion. Tout seul, Élie a peur. Dieu répond à Élie, et en troisième point, le plan de Dieu s'accomplit. Élie a peur. Cette intervention spectaculaire, finalement, n'a pas eu le revirement attendu, je le dis. Une menace de mort tombe sur lui, il va faire 400 km quasiment, et il est non seulement apeuré, il va être épuisé, il va être au bout du bout. Intéressons-nous à cet homme. Jacques nous dit, hein, Jacques 5, 17, que Élie était un homme de la même nature que nous, c'est-à-dire semblable à nous, avec les mêmes sentiments. Il a vécu ses moments forts et là, il se cache épuisé, il s'arrête et il dort. Élie est épuisé physiquement. Il est fatigué moralement. Il n'a pas de doute sur le fait que l'Éternel est Dieu, qu'il est le Dieu créateur, l'autorité, mais il est complètement découragé par rapport à ce peuple, par rapport à cette mission qui était la sienne, de rendre un témoignage à Dieu au milieu de ce peuple d'Israël. Il est complètement découragé, on le lit au travers de ces deux réponses à Dieu qui sont totalement identiques. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai déployé tout mon zèle, j'ai tout donné, j'ai tout fait, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Et ça n'a servi à rien. Je ne suis pas meilleur que mes pères, ben, eux aussi, ils n'ont pas réussi. Je suis comme eux, je n'ai pas réussi et je suis dans cette même lignée. Ton peuple t'abandonne et je ne suis pas meilleur que mes pères. Et pour moi, dira Élie, je demande la mort. Ça n'a pas de sens de vivre en sachant que le peuple de Dieu, que Dieu est là et que ce peuple l'abandonne, ne veut pas de lui, et de vivre une vie comme ça, ça n'a pas de sens. Il demande à Dieu de lui ôter la vie. Les mots qu'il utilise sont assez étonnants, n'est-ce pas ? Alors vous avez probablement pas la même traduction que moi, mais Élie, et après on va faire l'application pour nous, hein. Alors, il faut essayer de faire un petit peu la gymnastique dans notre tête, parce que c'est pour nous que la parole de Dieu veut s'adresser aujourd'hui, c'est à nous. Élie dit, c'est assez. Il dit, c'est assez. Ça suffit. Ça suffit. C'est trop. Je ne peux pas plus. Je suis là, dans la limite de la limite, il n'y a plus rien. Je suis à sec. C'est un premier sentiment qu'il exprime, c'est assez. Il dit après, je suis resté seul. Alors évidemment, il exprime plutôt un sentiment de solitude, puisque son serviteur est là et il y en a d'autres qui servent Dieu quand même, il le sait, mais il va dire, non, je suis resté seul à défendre l'Éternel. Un sentiment de solitude profond face à l'opposition, il n'y a que moi qui dis non. Vous vous trompez, c'est pas vrai, c'est pas juste. Je suis resté seul à défendre le nom de l'Éternel. Sentiment, là, encore une fois, fort, qui va impacter le prophète. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va aussi répéter cette phrase, « Je ne suis pas mieux que mes pères. » Sentiment d'échec dans sa mission. « Je ne suis pas arrivé. Je n'ai pas réussi. » Sauver ce peuple, finalement, j'ai dit oui, mais j'aurais peut-être même pas dû essayer. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Je ne vois pas pourquoi, Seigneur, tu m'as demandé de faire quelque chose. Voilà, ça ne sert à rien. Et puis, ce sentiment que rien ne peut y faire, de toute façon, c'est comme ça qu'ils sont, avec cette phrase d'inutilité de la vie. La vie est inutile. Ôte-moi la vie, prends mon âme. Étonnant, n'est-ce pas ? C'est rare ces moments, mais il y en a quelques-uns dans la parole de Dieu où des serviteurs de Dieu vont ouvrir leur cœur, Moïse, David et d'autres encore, pour révéler toute l'humanité qu'ils ont, puisque ce sont des êtres humains comme nous. Il a tout donné face à la peur qui le domine. Eh bien, il va ne plus être dans le combat. Il va finalement, ne plus croire en ce combat. Il aura tenu pratiquement, 4 ans de manifestations prodigieuses, et là, il n'en peut plus. Mais ce n'est pas son combat, lui, c'est le combat de Dieu. Et si Élie n'en peut plus et il décide d'abandonner, l'Éternel n'abandonne pas son peuple. L'Éternel n'abandonne pas son plan de salut pour vous et moi. Dieu ne laisse pas tomber. Il ne va pas, finalement, faire comme Élie, dire « Ok, on laisse tomber ». Au contraire, Dieu nous aime et il n'a pas laissé tomber. Il a été jusqu'à payer ce que nous répétons régulièrement, le prix le plus fort pour gagner ce combat. dans cet ultime recours, il a donné son fils pour mourir à notre place. Et là, le combat est gagné en donnant ce qu'il a de plus précieux. Comment Élie a pu arriver à ce stade-là? Il est comme vous et moi, fatigué. Enfin, je ne sais pas si vous êtes fatigué. Il y en a qui ont pris des vacances, peut-être qu'ils ne sont pas fatigués. Pas toujours aujourd'hui, mais de temps en temps, nous sommes fatigués, n'est-ce pas? Il nous arrive d'être fatigués, et il a été fatigué par cette période de sécheresse, ce fait de se cacher pendant 3 ans et demi pour ne pas se faire découvrir, pour ne pas se faire tuer, le fait de finalement s'être vu accusé d'être celui qui trouble Israël. C'est injuste, c'est pas vrai, c'est totalement faux, n'est-ce pas? Et quand il est atteint à ce point-là, eh bien, il va où? Il va à la montagne de l'Éternel, Horeb, Sion, là où Moïse a rencontré l'Éternel. Et il va là, et il va à cet endroit-là, il va se réfugier auprès de l'Éternel. À cet endroit-là, auparavant, Moïse avait eu une manifestation de Dieu. Rappelez-vous, c'était des tonnerres, du tonnerre, des éclairs, tout un tas de choses qui font que ce peuple, finalement, avait dit « Oh là là là, il vaut mieux que nous, on s'éloigne un peu de la montagne, hein, ça nous fait peur, là. Hein, il y a des manifestations qui nous font peur. C'est un peu trop bruyant, un peu trop spectaculaire, un peu effrayant, hein, comme ça peut, finalement, nous faire peur, l'orage, etc. etc. » Et finalement, Moïse aura découvert l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu saint, qui n'accepte pas qu'on touche à sa montagne et qu'on s'approche de sa montagne, parce que quand on est impur, on ne peut pas s'approcher de l'Éternel, n'est-ce pas? Et c'est ce que Moïse aura compris. Et là, avec Élie, il s'agit de tout autre chose. Je vais essayer d'accélérer. Eh bien, nous voyons que Dieu n'est pas dans ses manifestations, on va dire, sonores, ces manifestations spectaculaires. Il n'est pas dans le cataclysme, il n'est pas dans le grandiose qui démontre sa puissance et sa force. Il va être là, dans un moment sans bruit. Le son de la respiration. Ça fait peut-être peur à certaines personnes, des fois, quand il n'y a pas de bruit. En tout cas, Dieu, ça ne lui fait pas peur. Si Dieu agit quelquefois, comme la Bible le dit, à main forte et à bras étendus, ça arrive, évidemment, dans la parole de Dieu, mais il agit aussi, très, très, très souvent, dans le silence et dans le calme, dans l'invisibilité, dans ces choses douces et légères, mais qui vont agir bien plus profondément. Ce qu'apprend Élie, ce n'est pas que Dieu ne veut pas faire des miracles. Ce qu'apprend Élie, c'est que, eh bien, ce qui est important, c'est que Dieu soit là. Ce qui est important, c'est que Dieu soit là. Et il est dans la vie d'Élie. Il est bien présent dans la vie d'Élie. Ce qui est important, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse, même au travers du silence, d'un son doux et léger, sans feu d'artifice, sans gesticulation humaine. Vous et moi, n'est-ce pas, nous voudrions que Dieu se manifeste toujours avec des éclats du tonnerre. Ça donnerait peut-être un peu plus de démonstration à notre foi qui est pertinente. On voudrait peut-être que Dieu se manifeste d'une façon plus forte, tout court. Mais la Bible nous dit que Dieu, dans les derniers temps, s'est révélé en Jésus-Christ. Et c'est la chose la plus spectaculaire qu'il puisse y avoir. Évidemment, il agit dans nos vies, et c'est important qu'il agisse dans nos vies. Mais est-ce que nous ne sommes pas trop à penser au coup d'éclat, alors que lui, il pense au changement profond, sans trompette, sans cymbales? Petite histoire banale. Vous savez, maintenant, j'ai un chien. Dernière fois, je dois me faire livrer d'un colis. Qu'est-ce que je fais? Je laisse le portail non fermé à clé. Et avec mon épouse, nous sommes dans la chambre. Évidemment, le chien, il est fait pour garder, n'est-ce pas? Il aboie sur tout ce qui passe devant le portail, tous les chiens, etc. Il montre ses muscles et ses dents. Et puis là, le livreur arrive jusque dans la maison. Tac, tac, tac. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et le chien arrive, il est tout content, il saute sur le livreur, il lui fait des bisous. Ça sert à quoi? À quoi ça sert un chien pareil? Évidemment, c'est vrai qu'on a un peu tendance à nous. Et il faut faire attention. Ce qui est important, c'est que le Seigneur soit dans l'action. C'est pas ce que l'on voit, ce que l'on voit pas, n'est-ce pas? Et notre Seigneur est dans l'action. L'Éternel ne se repose ni ne dort. Il est dans l'action. C'est ça le sujet de ce matin. C'est de prendre conscience de l'humanité d'Élie, de notre humanité, de ces moments où on est comme Élie, en train de se dire « mais c'est pas possible, hein. Non, j'en peux plus ». Et d'arriver devant Dieu. Et là, encore une fois, de réaliser que le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre en sourdine, peut-être, mais il est là, il agit finement. Et il va répondre au découragement de son serviteur. C'est pas évident, n'est-ce pas? C'est pas évident parce que, évidemment, ça demande de s'arrêter, d'aller marcher un petit peu jusqu'à la montagne de l'Éternel et de lui dire, Seigneur, ah là là, j'en peux plus, je suis fatigué, ou c'est trop, ou je ne sers à rien, mais pourquoi tu m'as appelé moi? Mais, en fait, je ne suis pas meilleur que les autres. Pour après, se rendre compte que ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a choisis. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Je t'ai choisi pour être à un endroit et être là, à cet endroit. Parce que c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas nous qui, même si nous sommes des gens de bonne volonté et même doués, il y a énormément de dons dans cette église, ce n'est pas nous qui agissons dans les cœurs, c'est l'Éternel. Est-ce que vous entendez le son doux et léger de l'œuvre de Dieu dans votre vie? Est-ce que nous entendons le son doux et léger de l'œuvre de Dieu dans notre vie? Je ne parle pas de ces moments où on est content, parce que voilà, c'est super. Je parle de ces moments où on se dit, ah waouh, le Seigneur a fait ça. Ah, le Seigneur a fait ça. Mais moi alors, j'en étais incapable. Hein. Mais le Seigneur est allé appeler là. Il est allé toucher le cœur de l'autre. Cette œuvre fine, mais combien réelle de notre Dieu, qui nous encourage, qui doit nous encourager, vous et moi, à aller vers lui et lui dire, voilà où j'en suis, Seigneur. Et là, évidemment, j'aimerais prendre pas mal de temps sur le détail, parce qu'on associe à ce texte-là de la dépression, etc., et ça serait intéressant, mais on n'a pas le temps. Dieu va s'occuper de lui. Dieu va s'occuper de lui, on l'a vu, hein, il envoie de la nourriture, il va lui donner ce qu'il faut pour pouvoir repartir, et il va lui donner encore d'autres choses, et notamment, ce qu'il va lui dire, c'est la troisième partie, quand il va lui dire, va loindre lui, et il va se passer des choses, et Dieu, il sait déjà que ces gens-là vont régner dans l'avenir, il sait déjà qu'il y a une relève, qu'il y a quelque chose qui va se poursuivre, parce que le plan de Dieu s'accomplira. Le plan de Dieu s'accomplira. Et c'est ça qu'il dit dans cette deuxième partie de la réponse qu'il donne à Élie. le plan de Dieu va s'accomplir. Vous avez vu, j'ai mis un petit peu de vent là. Un son doux et léger. Bon, il n'y a pas Jean-Pierre, hein, il n'est pas là, donc il aurait pu nous dire quel type de vent c'est. C'est pas un vent fort. Hein. Mais vous savez, des fois, il vaut mieux pas trop le vent de la tempête hein, quand on est dans un voilier. Hein. Parce que là, on se fait peur. Il vaut mieux un petit mouvement pépère d'un vieux comme nous, n'est-ce pas ? On avance tranquillement. Mais on avance et on sait vers où on va. Nous sommes dans un siècle, mes amis, où le volume du son, la quantité d'argent, le nombre d'adhérents, de followers ou de spectateurs sont pour beaucoup de gens le signe de la présence de Dieu. Je répète, pas pour vous gronder, mais pour qu'on réalise que nous sommes dans un siècle où le volume du son, où la quantité d'argent que l'on a, le nombre d'adhérents, de followers, de spectateurs, sont pour beaucoup de gens le signe de la présence de Dieu. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un jour, ces gens qui mettent leur confiance dans ces choses-là vont avoir les yeux qui vont s'ouvrir et ils vont dire « Ah, mais ça n'est rien !» Et ils vont se détourner de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas le volume sonore. Dieu, ce n'est pas le nombre de followers, ce n'est pas l'adhésion. Ce n'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est celui qui agit, celui qui est vivant, celui qui se manifeste. Et ce n'est pas parce qu'on dit beaucoup de choses très fort, avec beaucoup de conviction, que c'est la vérité qui vient de Dieu. Ce qui m'inquiète, c'est quand des chrétiens aussi ne voient pas cette gesticulation. Excusez-moi ce mot, mais je vois beaucoup de chrétiens qui ne voient pas ces gesticulations et qui se laissent avoir. Ce qui est fondamental dans votre vie comme dans la mienne, c'est que Dieu soit présent. C'est qu'il se manifeste. C'est qu'il réponde à nos prières selon sa volonté, d'une façon silencieuse, pas spectaculaire, toujours, peut-être spectaculaire s'il veut. Merci Seigneur pour ces moments, mais c'est qu'il réponde à nos besoins, à nos prières, qu'il sauve. Parce que le son, ça fait plaisir, mais ça ne change pas, n'est-ce pas ? Alors j'ai rien contre le volume sonore, hein, j'aime beaucoup le son et tout ça, ne pensez pas que c'est quelque chose qui est une vindicte, non. Mais ce qui est important, c'est, comme pour Élie, que face à notre humanité, à notre découragement, aux incompréhensions, aux idées tristes d'inutilité, eh bien le Seigneur nous dise, t'inquiète, j'ai tout entre mes mains. Le plan, je le connais. Et, eh ben, tu sais, Élie, tu vas aller oindre Élisée. Parce que lui aussi, il va suivre, il va t'aider. Et tel roi, eh ben, il va remplacer tel roi. Et tu verras, les choses vont se mettre en place parce que c'est moi qui ai tout entre mes mains. Le Seigneur est agissant. Et il est non seulement sensible à nos sentiments, prêt à répondre aux besoins de son serviteur, mais agissant. Alors, je nous pose la question. Qui je suis dans cette histoire-là ? Acab ? Qui sait pertinemment que Dieu, c'est l'Éternel, mais lui, sa femme, c'est tout. Donc, non, c'est ma femme que je suis. Le peuple, qui est placé devant des choix, mais qui se laisse influencer au bout du compte, et qui ne prend jamais position par rapport à Dieu, ou Élie, qui se laisse décourager par le peu de résultats qu'il voit. Je vous invite ce matin à être Élie, mais qui a appris la leçon et qui repart. Élie qui a appris la leçon, qui repart avec le Seigneur, avec ce que le Seigneur lui donne. Nous voulons être comme Élie, avec nos sentiments limites, notre force limitée, mais ancré dans sa parole, ancré dans cette réalité que notre Dieu a toutes choses entre ses mains. si tu veux faire l'économie de cette marche jusqu'à la montagne de Sion, tu risques de jamais comprendre que l'Éternel, il est agissant, même sans silence. Application, et je termine par là. C'est quoi l'application ? On aura des moments comme ça. On en a. Notre humanité, cette vie sur cette terre, fait cela. Et vous allez peut-être me dire, oh là là, t'es pessimiste, Jean-Claude. Peut-être. Pas spécialement. En tout cas, il y aura des sujets de découragement, des circonstances qui peuvent être fatigantes, des situations qui sont désespérantes, qui poussent peut-être à la dépression. C'est vrai, oui. Mais la question, c'est pas comment je vais faire pour redresser ces situations décourageantes. La question n'est pas comment je vais faire pour trouver des solutions. La question n'est pas comment je vais pouvoir encourager alors que c'est décourageant. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que le Seigneur est là ? C'est ça la question. Est-ce que le Seigneur est là dans ma vie ? Est-ce que le Seigneur est là dans ma vie ? Peut-être silencieux. Je vous ai mis une photo. Alors, je ne dis pas quel concert c'est, parce que à Barcelone, un grand concert, où il y a des milliers de personnes qui sont là. Et ça, ça déchire. Mais soyons pas des chrétiens à côté de leur pompe. Pardonnez-moi l'expression. Chrétiens à côté de leur pompe, c'est des chrétiens qui vont chercher ça plutôt que ce que nous demande le Seigneur. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Soyons pas des chrétiens à côté de leur pompe, mes amis. Parce que sinon, les gens autour de nous vont dire « Ah, mais c'est du vent, votre truc. C'est du vent. » Dieu est vrai, vivant, agissant. Ses plans sont sûrs et véritables. Et nous pouvons regarder à notre limite, c'est vrai, et il faut savoir se dire, oui, moi je suis limité, pour aussi tourner les yeux vers la montagne de l'Éternel et dire, je ne te vois peut-être pas là, ça ne fait pas le feu d'artifice, c'est pas peut-être spectaculaire, mais Seigneur, s'il te plaît, agis en moi, autour de moi, dans ma famille, dans mon travail. Manifeste-toi, Seigneur. Moi, j'y arriverai pas, sinon. Je peux pas. Que ton plan s'accomplisse, Seigneur, afin que le Seigneur soit glorifié. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons venir à toi ce matin. Toi qui connais nos sentiments, qui connais nos cœurs, qui connais l'état de nos pensées. Et c'est vrai que, Seigneur, si nous n'avons pas toujours les ressources qui sont là, Seigneur, c'est en toi que nous voulons nous confier. Et Seigneur, au travers de ces moments de vacances, nous voulons réfléchir, Seigneur, à ce qui nous permet d'avancer. Père éternel, merci pour tout le soin que tu as eu avec Élie et merci parce que ça nous montre que tu es quelqu'un qui prend des précautions avec tes enfants. Merci parce que tu es plein de précautions avec moi, avec chacun d'entre nous, pour que nous apprenions, Seigneur, à te faire confiance. Seigneur, notre prière à tous, ensemble, c'est que, Seigneur, tu te manifestes dans notre vie, que tu répondes à nos prières, que ta parole s'accomplisse. Seigneur, que tu puisses faire en sorte que notre témoignage ait un vrai impact. Pas que nous soyons les meilleurs à témoigner, que, Seigneur, nos chants soient des chants véritables. Pas que nous soyons les meilleurs chanteurs du monde. Ce qui t'intéresse, Seigneur, pas que nous fassions les plus belles prières, mais que nous t'ouvrions notre cœur véritablement. Nous voulons te prier pour que tu continues ton œuvre en chacun d'entre nous, parce que tu l'as commencé et parce que rien, Seigneur, que tu as commencé, tu ne le termineras. Nous voulons te remercier pour le plan précis que tu as pour chacun d'entre nous, dans la situation où chacun se trouve. Merci parce que tu es ce Dieu qui peut apporter des ressources et permettre de continuer d'aller de l'avant. Nous voulons, Seigneur, vraiment compter sur toi. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen.